last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Au sommaire de ce quatrième épisode du journal du Arras Film Festival. On terminera par un agenda du jour avec quelques rencontres en compagnie des équipes des films, une interview avec Mei Sine Mazouki et Jean Denisot pour le film Une part manquante. Mais tout de suite, on retrouve Théo, étudiant de l'Université d'Artois, qui nous propose une chronique sur le film Qui chante là-bas de Slobodan Sijan.
C'est en 1996 que le Conseil yougoslave de l'Académie des sciences et arts délivra sa liste des meilleurs films yougoslaves réalisés entre 1947 et 1995. Le lauréat n'était nul autre que Qui chante là-bas. Deux musiciens de tzigane, un apprenti chanteur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un couple de mariés et un ancien combattant embarquant dans le plus chaotant d'un chauffeur impétueux et son fils Nigo pour Belgrade. Agrémenté du son folklorique d'une guimbarde et d'un accordéon, voilà le grossier tableau que l'on pourrait dépeindre de ce road movie pittoresque prenant place dans les campagnes sablonneuses de Serbie. Premier long métrage du metteur en scène Slobodan Sijan, jusqu'alors habitué à travailler pour la télévision, le film remporte une arène de bronze au Festival du film yougoslave de Pula en 1980, puis est sélectionné en section Un certain regard à Cannes en 1981, puis à nouveau en 2020 dans la section Cannes Classics. C'est une réussite. Charmé dès le début du film par la musique jouée par les deux voyageurs tziganes, nous sommes directement plongés dans une campagne calme, rustique, laquelle nous allons parcourir tout le long du film jusqu'à Belgrade. Le voyage est parsemé de péripéties frisant l'absurde, conduire les yeux bandés, croiser le chemin d'un paysan colérique ayant labouré la route, transformer le bus en étable à cochons, on finit par se demander si l'équipage arrivera un jour à bon port et en entier. Le trajet se déroulera malgré tout en un clin d'œil. Les personnages fortement caractérisés ainsi que les rebondissements inattendus font l'humour du film et les paysages de la dune de Deli Blato, là où la quasi-entièreté du film a été tournée, nous font nous aussi voyager et offrent un décor hors pair à cette agréable comédie.
Je vous propose maintenant une interview réalisée avec Cassandra, étudiante à l'Université d'Artois, pour le film Une part manquante. Nous sommes en compagnie de Mei Sine Mazouki, qui interprète Lily, la fille du personnage principal du film, Jay San, et de Jean Denisot, scénariste. On écoute la bande-annonce du film Une part manquante, que vous avez pu découvrir en avant-première au Arras Film Festival, et qui est sorti hier, mercredi 13 novembre, dans les salles obscures.
Pourquoi la nanny c'était le nom ?
Tu es passé de chef cuistot à taxi.
C'est ma femme qui a enlevé ma fille.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
Elles sont parties, mais j'étais... Je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans,
je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout, dans tout le pays.
Konnichiwa.
Domo.
La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents.
Ouais,
c'est pas ça?
Pas ici. Papa, j'ai retrouvé Lily.
Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là.
Je sais, je sais.
C'est Lily, putain! Goodbye!
Tu sais, Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver. Je te suggère d'aller lentement.
Moi, c'est pas ça, une seule année qui t'a envoyé tout le monde.
Il t'a dit quoi?
C'est que j'aurais dû faire il y a 9 ans.
À pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qu'il t'aime.
Elle t'a oublié. Steven ne connaît ni quoi.
J'ai peur de la perdre.
Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je veux pas.
ずっと日本にいたんだ。
リリーのことを探してた。
Jean Denisot, bonjour.
Bonjour.
Et Mei Sirnemazuki, bonjour à toi.
Bonjour.
Nous, en tant que Français, en connaissant le droit français et justement les droits relatifs au divorce, aux gardes, on se dit que c'est quand même hallucinant que le premier parent qui se sauve avec l'enfant obtient la garde complète, même si les deux parents sont encore mariés, même si, voilà, en plus on apprend qu'il continue de payer la pension alimentaire, qu'il n'est pas divorcé au bout de 9 ans, qu'on lui conseille et qu'à un moment il hésite d'aller prendre l'avion et de partir avec sa fille. On se demande comment ça peut finir.
Mais oui, mais le Japon et la France sont deux pays extrêmement différents. C'est, déjà, je pense qu'il faut commencer par ça. Ce n'est pas le même droit, ce n'est pas les mêmes droits coutumiers, ce n'est pas du tout les mêmes cultures. Le Japon a un rapport à la famille qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Disons qu'on va dire qu'en France, enfin, en Occident, en Europe, on avait exactement le même rapport à la famille il y a encore un siècle et demi. C'est-à-dire qu'une famille qui se sépare, c'était un peu une catastrophe. C'est une catastrophe patrimoniale. Et puis, c'est extrêmement difficile pour les femmes. Pour les femmes, c'est un échec. Un divorce, c'est un échec. Et ça, je ne peux pas porter de jugement là-dessus. C'est vrai, c'est un échec là-bas. Alors qu'en France, bon, on sait qu'il y a un mariage sur deux qui se solde par un divorce. Et pour nous, on estime que c'est plus trop un échec et que c'est la vie et que voilà, on se rencontre, on s'aime, puis après on s'aime plus et puis les enfants y suivent. Les Japonais, ils ont une autre manière de voir les choses. Les Japonais, ils pensent que les enfants, ils doivent être absolument protégés de tout ça et que passer d'une maison à une autre en garde alternée, c'est compliqué par l'enfant. Et en plus, on le sait que c'est vrai, c'est compliqué pour les enfants. Et donc, ils évitent ça, ils évitent les divorces. C'est très compliqué de divorcer, parce qu'ils estiment que c'est les enfants qui trinquent, et c'est vrai. Et moi qui ai fait des recherches là-dessus, je suis obligé de dire qu'au Japon, ils ont raison. Mais néanmoins, la manière dont ça se passe, la manière dont l'État se désintéresse de cette question familiale, et où l'État n'intervient pas quand ça se passe mal, c'est aussi problématique. Mais voilà, c'est très complexe, c'est une histoire de culture, et nous, avec Guillaume Senez, on a essayé de ne pas porter de jugement tranché sur ces choses-là, parce qu'on est des Occidentaux, on est deux hommes blancs français, européens, on ne va pas avoir un regard critique sur une société qui n'est pas la nôtre. On essaye d'avoir un regard nuancé.
Aussi, dans le film, j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques qui étaient un peu incluses. Je pense notamment à la double identité que le personnage de Lily a dans le film, qui sont mentionnées sans forcément être développées. Pourquoi ce choix-là ?
Ben, c'était pas le cœur du sujet, la double identité. Mais par contre, ce qui nous importait, c'était que le personnage qui est incarné par May, et qui pourra d'ailleurs en dire un mot, d'ailleurs, parce que ça la concerne au premier chef, soit un personnage qui ne soit pas qu'une idée. C'est-à-dire que véritablement, c'est un personnage qui, certes, déjà dans le film, a perdu son père, mais qui est un peu différente dans son pays. Elle se sent un peu étrangère dans son pays. Et nous, ça nous intéressait parce que ça donnait une complexité au personnage. Voilà, mais je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser à May parce que ça la concerne. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que d'être...
Cette question de la double identité culturelle qui est mentionnée dans le film, mais aussi qui te concerne dans la vraie vie. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Par exemple, moi aussi, je suis à moitié asiatique et c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois en France, par exemple.
Bah, c'est vrai que comme je suis franco-japonaise, à chaque fois quand je suis en France, je suis souvent japonaise. Enfin, on prend plus pour une japonaise que pour une française. Et au Japon, on prend plus pour une française qu'une japonaise. Donc vous savez que des fois, ça peut être un peu embêtant. C'est pas très pratique et c'est pas très sympa non plus. Mais franchement, moi, ça me dérange pas trop. Je trouve que... Enfin, j'aime bien être japonaise, j'aime bien être française. Donc c'est quelque chose que j'aime bien.
Pourquoi avoir choisi une fin qui est très ouverte et puis même dans l'histoire des personnages, on plonge un peu dans leur histoire, c'est vraiment, il n'y a pas un début ni une fin, c'est vraiment un moment de vie.
Elle est ouverte cette fin, May. Qu'est-ce que tu penses toi de cette fin ?
Je trouve que c'est pas très ouvert. Enfin si, mais quand je lisais le scénario pour la première fois, c'était pas du tout la fin à laquelle je m'attendais. Enfin je pensais que ce serait soit une fin triste, soit une fin heureuse, mais c'est ni l'un ni l'autre, c'est super... Enfin après on peut penser comme on veut, mais...
Non mais tu as raison, c'est une fin qui est mitigée, c'est une fin, il y a une dimension ironique dans cette fin, il y a une dimension complexe, c'est-à-dire qu'il a retrouvé sa fille, et ça on ne peut pas lui retirer. Et puis il y a ce lien, Il y a ce lien entre les deux, c'est un lien qui est tout à fait contemporain, c'est ce lien numérique, c'est, voilà, ils sont, grâce à leur téléphone, reliés. Mais c'est grâce à leur téléphone. Même s'il y a des milliers de kilomètres entre eux, ils sont reliés. Ils ont vécu quelque chose ensemble. Ça, c'est très important. Néanmoins, c'était tout à fait logique qu'ils soient expulsés. Et ça, ce qu'on cherche à faire quand on écrit un film, toujours, c'est avoir une structure, avoir une histoire qui est à la fois parfaitement logique et en même temps surprenante. Que le spectateur se dise, mais oui, évidemment, c'est sûr que ça allait se passer comme ça, mais je ne savais pas que ça allait se passer exactement comme ça. Mais on s'y attendait, mais d'une manière surprenante. Et ça, c'est tout le travail du scénario. Hein. C'est mon travail que j'ai accompli avec Guillaume Sénèze. Mais voilà, ce qu'on voulait, c'était une fin qui ne soit pas complètement dramatique, parce que le spectateur aurait été trop triste. Mais en même temps, on ne voulait pas non plus une fin complètement angélique, parce que le spectateur se serait dit, mais c'est idiot, c'est complètement con comme fin. Donc il faut trouver le juste dosage, et c'est cette dimension un peu ironique, un peu complexe, un peu à la fois triste et en même temps gay, qu'on a cherché et je crois qu'on a obtenu.
Une interview à retrouver en intégralité sur le www.radiopfm.com. On passe maintenant à l'agenda et quelques séances avec invités pour ce jeudi 14 novembre. D'abord à 13h30 au Mégarama, salle 1, le premier film de la compétition européenne, White Courage. Un film polonais, synopsis, deux frères s'affrontent après la mort de leur père au milieu de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura une rencontre avec le réalisateur Marcin Koszalka après la projection. Ensuite à 16h en salle 2 du Casino, vous pourrez rencontrer Koya Kamura, la réalisatrice du film Hiver à Sokcho, et Bella Kim, interprète de Suha dans le film. Un peu plus tard, à 18h15, en salle 1 du Casino, Brûle le sang, dans la catégorie découverte européenne. Rencontre avec une partie de l'équipe du film, Akaki Popkadze, réalisateur, et Nicolas Devauchel, qui incarne le grand frère, à l'issue de la séance. Synopsis, dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. Son fils, Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, se retrouve seul avec sa mère en deuil. C'est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient d'un long exil dans le but de se racheter, en lavant l'honneur de sa famille. À 18h30, retour à la compétition européenne pour le film The New Year That Never Came. Rencontre avec Bogdan Muresanu, le réalisateur après la projection. Six histoires interconnectées qui explorent la Roumanie alors que la révolution de 1989 commence à poindre. C'est à voir en salle 1 du Mégarama. Ensuite, à 21h en salle 2 du Mégarama, Block 5, rencontre avec Klemen Dvornik, le réalisateur slovène de ce film dans la catégorie Vision de l'Est. Et enfin, à 21h15, une avant-première au Casino, salle 1, Jouer avec le feu, rencontre avec une partie de l'équipe du film, Muriel Coulin, co-réalisatrice avec Delphine Coulin du film, Vincent Lindon et Stéphane Crépon. C'est l'histoire de Pierre qui élève seul ses deux fils. Fus, l'aîné, part à la dérive. Fasciné par la violence et les rapports de force, il se rapproche de groupes d'extrême droite à l'opposé des valeurs de son père. Peu à peu, l'amour cède place à l'incompréhension. Voilà, c'est la fin du 4e épisode de ce journal du Arras Film Festival. Rendez-vous demain pour un 5e et dernier épisode avant de connaître le palmarès lundi.